Matthieu chapitre 4 et le verset 17, vous allez voir, c'est quelque chose de très simple. Il s'agit du moment où Jésus commence son ministère et les paroles, le contenu du message que Dieu l'appelle à donner dans son ministère. Par la suite, je vais refaire le lien par rapport à ce qu'on a déjà partagé. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, donc c'est-à-dire après la tentation dans le désert, après le baptême dans l'eau et la tentation dans le désert, le revêtement de la puissance de Dieu sur la vie de Jésus, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. » Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ce que je voudrais vous partager ce matin, c'est que dans le royaume des cieux, ce thème que nous sommes en train de développer, et nous voyons que c'est la façon dont Jésus il a expliqué la vie chrétienne, il a comparé un royaume, le royaume de Dieu, mais dans ce royaume, il y a des choix à faire. Face au royaume de Dieu, il y a des choix à faire. Il y a un roi, ça on l'a vu la semaine dernière, c'est Jésus, le roi d'humilité, de compassion, de justice, de vérité, mais il y a des choix qui nous incombe. Il y a certaines choses que le Seigneur nous demande de nous positionner. Et on ne peut pas rester indifférent face à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est quelque chose qui doit nous faire réagir à un moment donné, d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Le Seigneur, il nous laisse toujours la liberté, mais il y a des choix. Et ce matin, je voudrais qu'on voit plusieurs choix. Il y en a un qui est donné dans ce passage, parce que le royaume des cieux, il est proche, mais on a le choix de rentrer. Et c'est une grande différence que d'être proche du royaume de Dieu, ou que le royaume de Dieu soit proche de nous, c'est une autre chose que d'être dans le royaume de Dieu. Il y a quelqu'un qui a reçu cette parole de la part du Seigneur, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Vous vous souvenez qui c'était? C'était un scribe, un religieux, quelqu'un qui connaissait bien la parole, et qui a demandé, « Seigneur, c'est quoi le plus grand des commandements ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras ton Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas de plus grand commandement que cela. C'est les tout premiers. Et puis, le monsieur en question, en face, il dit, « Mais c'est vrai, Seigneur, tu as raison. Le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. » Et c'est à ce moment-là que Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Alors j'imagine la réaction de cet homme quand le maître Jésus lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, il y a la foule qui est là. » Et combien de fois Jésus il a réprimandé durement les pharisiens, les scribes, en leur disant « Race de vipères, hypocrite, etc. etc. » Mais cette fois-ci, il le réprimande pas. Il lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Je ne sais pas s'il se sentait pas gonflé les chevilles un petit peu, bombé le torse en se disant « Voilà, je suis près du royaume de Dieu, c'est super. » Mais est-ce que c'est aussi bien que ça, que d'être près du royaume de Dieu? Est-ce que c'est intéressant? C'est tellement mieux d'être dedans. Cet homme, il aurait dû être attristé de s'entendre dire que tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est-à-dire que tu n'y es pas encore dedans, justement. Fais attention, repens-toi, frappe-toi à la poitrine, mais humilie-toi devant ton Dieu, mais rentre dans le royaume de Dieu. Et au lieu de réagir de cette manière, on imagine qu'il a gonflé la poitrine et qu'il s'est senti pousser des ailes. Il y a une histoire que l'on raconte souvent qui illustre bien cette vérité, la différence entre être prêt et être dedans. C'est un monsieur, ça se passe en Inde, qui se promène dans une forêt donc indienne, comme une jungle un petit peu, et tout va bien. Le ciel est bleu, l'air est chaud, les fleurs sont magnifiques, il y a des parfums merveilleux dans la forêt. Vous imaginez une journée d'été en Inde, et il marche tout tranquillement comme ça, tout à coup derrière un buisson, il tombe nez à nez, face à un tigre, ou nez à museau si vous préférez, face à un tigre. Et quand il voit le tigre, alors il est figé de peur, et puis il se dit « je vais y aller tout doucement », alors il commence tout doucement à reculer, il essaie de faire le moins de mouvements possible, puis il se tourne tout doucement, et il marche lentement, puis petit à petit il commence à accélérer le rythme. Mais il entend que derrière, ça remue. Donc, de plus en plus, il commence à accélérer, il accélère. Et il se trouve que dans ces forêts en Inde, par rapport à ces situations-là, il y a tout qui est prévu. Ils ont des refuges en bois dans la forêt. Donc il y avait un refuge, il savait où il était. Il était passé devant quand il a marché. Donc il se met maintenant à courir parce qu'il entend que derrière le tigre est en train de le poursuivre. Il se met à courir, à courir, à courir de toutes ses forces. Et il entend qu'il se rapproche. Alors il redouble d'efforts, Il arrive à atteindre le refuge. Il atteint la poignée. Il se dit, ça y est, je suis tout prêt, c'est super. Et puis, la porte est fermée. Il est tout prêt, mais il n'est pas dedans. Je vous laisse imaginer la suite. Je raconte pas la suite. Mais ça nous montre bien la différence qu'il y a d'être prêt et d'être dans le royaume de Dieu. Et laissez-moi vous dire, parce qu'il n'y a pas de tigre, heureusement, dans nos rues qui courent, mais il y a un ennemi qui est comparé à un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Et il suffit pas d'être prêt du royaume de Dieu pour se dire « je suis protégé ». Non. Heureusement, on sait que la porte peut s'ouvrir parce que la porte, la Bible nous dit que c'est Jésus la porte du refuge céleste. Et celui par lequel nous pouvons passer, celui par lequel nous pouvons entrer dans le refuge et être protégé, c'est la personne de Jésus-Christ. Si on veut passer par un autre chemin, non, ça marche pas, il n'y a pas de fenêtre. On ne peut pas enjamber un endroit pour rentrer dans le royaume de Dieu. On ne peut pas le faire dans les conditions qu'on veut, comme l'on le disait la semaine dernière. Il faut passer par Jésus-Christ. Et une des conditions, c'est ce verset que l'on a lu. Si le royaume de Dieu il est proche, eh ben alors repentez-vous. Demandez pardon pour vos péchés. Combien c'est dangereux que de rester à la porte du royaume de Dieu. C'est peut-être quelque chose qui est l'état le plus malheureux du monde, parce que les pécheurs qui sont loin de Dieu, quand ils sont dans le péché et dans la tristesse du péché, ils n'ont pas connaissance des choses du royaume de Dieu, donc il y a quelque part, ils savent pas qu'ils peuvent être sauvés. Mais celui qui est à la porte, il sait qu'il peut être sauvé, mais il prend pas la décision de l'être. Et il est plus malheureux que tous les autres. Voilà pourquoi je voudrais nous inviter chacun, si ce n'est pas déjà fait, à prendre ce choix. Le premier choix, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. On voit que Jésus, quand il enseigne ses disciples, il avait souvent ses paroles à la bouche. Et plutôt, à plusieurs reprises, il a fait en disant les conditions qui ne permettaient pas d'entrer. Je sais pas si vous vous souvenez de ces versets. J'en ai pris quelques-uns, hein. Je les ai pas tous pris parce qu'il y en a beaucoup. Il dit par exemple, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Il dit, voilà, si vous faites ça, vous n'entrerez pas. Ça veut dire, si vous vous contentez de votre propre justice, si vous vous contentez d'avoir une apparence le dimanche matin et que les gens voient cette apparence, mais que Dieu lui regarde au cœur, ça suffit pas pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça suffit pas d'avoir des airs spirituels. Ça suffit pas d'avoir la Bible sous le bras en allant à l'église le dimanche matin. Les gens nous voient faire, mais Dieu, lui, sait ce qu'il en est. Alors, ça n'a pas interdit d'avoir la Bible sous le bras, hein. Attention, on a le droit, au contraire. C'est un témoignage. C'est un témoignage tous les dimanches matins de venir, de prendre la voiture, même s'il y a du brouillard, et de braver tous les dangers de la route pour se rassembler dans la maison du Seigneur. C'est un témoignage qu'on donne à toutes les personnes qui sont autour de nous. Mais c'est pas ça qui nous sauve. C'est pas ça qui nous fait entrer dans le royaume. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur !» n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si vous n'êtes pas d'accord, vous arrangez avec le bureau d'en haut, là, parce que ça vient de là. C'est le Seigneur qui nous a donné ces paroles. Et ça nous arrive de dire Seigneur dans nos prières, ça nous arrive d'avoir des paroles même, où on a des termes spirituels pour s'encourager, on a le droit de faire toutes ces choses, on a le droit de chanter des beaux cantiques qui nous exhortent, mais c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on rentre dans le royaume de Dieu. C'est ce que nous dit ce verset. Les plus belles paroles, les plus belles prières, si on arrive à faire des alexandrins dans nos prières, c'est super, tant mieux. Mais c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, je vous le dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les richesses, c'est pas ça qui peut nous ouvrir l'accès au ciel. Ça veut pas dire si on est riche, on pourra jamais rentrer. Mais c'est pas ça qui va nous aider en tout cas. C'est l'humilité, c'est toutes sortes de choses que le Seigneur nous invite à vivre et que je voudrais partager parce que s'il y a une liste des conditions à ne pas faire, heureusement il y a une liste des choses à faire. Justement, quand Jésus parle de ces choses-là, il dit « Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux ». C'est pas celui qui me dit « Seigneur, Seigneur ». C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Il y a une chose que de faire sa volonté, que de croire que notre volonté, c'est la volonté de Dieu. C'est une autre chose que de faire la volonté de Dieu, même si nous-mêmes, on n'est pas d'accord. Ça vous arrive des fois que la volonté de Dieu soit pas la même que la vôtre? Ben oui, on est humain. Donc ça arrive souvent. Souvent, il y a ce combat dans notre cœur. Mais quelqu'un qui veut rentrer dans le royaume de Dieu, s'il entend ce verset, il va comprendre qu'il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Pas se soumettre à un pasteur, pas se soumettre à un frère ou un sœur qui lui donne un conseil, même si le Seigneur peut utiliser ces biais-là, mais se soumettre à la parole de Dieu. C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Celui qui est dans cette obéissance continuelle. Celui qui choisit de dire, Seigneur, même si c'est dur, même si c'est difficile d'obéir, je vais ravaler ma salive, je vais faire l'effort, je vais prendre les choses en main, mais je vais obéir à ta parole. Je vous le dis en vérité, disait Jésus, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Devenir comme un petit enfant. Combien, quand on est parent, on a plein de leçons à prendre de nos enfants. On a plein de leçons à leur donner aussi, hein. Mais on en a plein à prendre. Quand on voit des fois comment ils sont persistants, comment ils sont persévérants dans demander, en tirant le bout de la veste pour demander quelque chose, papa, 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 jusqu'à ce qu'on tourne la tête et qu'on s'intéresse à eux enfin. Et combien c'est intéressant d'avoir cette attitude-là auprès du Seigneur. Et combien le Seigneur nous a dit que de toute façon, il était prêt à nous bénir. Il était ce Dieu qui voulait pourvoir à chacun de nos besoins. Mais en devant nous inspirer des enfants, avec avoir cette humilité. Le petit enfant, quand ses parents sont pas là et qu'il s'en rend compte, quand il s'en rend pas compte, il est content. Hein. Quand il s'en rend compte et qu'il est dans un endroit qu'il connaît pas, mais il se met à pleurer, il est perdu. Parce qu'il dépend de ses parents. Et nous devons avoir cette dépendance, nous convertir et devenir comme des petits-enfants envers le Seigneur. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire, je suis totalement dépendant de toi. Ça ne veut pas dire que pour mettre ma chemise le dimanche matin, je vais demander au Seigneur qu'est-ce qu'il veut que je mette, si c'est une rose ou une à fleurs. Non, non, c'est pas cette dépendance-là, mais c'est la dépendance pour que dans les directions de nos vies, le Seigneur puisse nous conduire. Et puis, il y a cet aspect qui est donné, si vous ne vous convertissez pour rentrer dans le royaume de Dieu, la Bible, elle est claire, il faut se convertir. Ça suffit pas d'avoir, un raisonnement qui dit « j'approuve tout ce que le pasteur prêche, j'approuve tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu ». C'est déjà très bien. Mais ça, c'est être à la porte du royaume des cieux. Et il faut se convertir pour rentrer dans le royaume de Dieu. Se convertir, ça veut dire abandonner sa vie passée, la repentance d'ailleurs, et se tourner vers Jésus en disant « tu es mon maître Seigneur, je veux t'obéir ». Il faut qu'à un moment donné dans notre vie, il y ait cette décision, ce choix qu'il se fasse pour que nous puissions vivre après les bénédictions dans le royaume de Dieu. Parce que quand on est dans le royaume de Dieu, il y a des bénédictions. C'est pas des promesses en l'air, c'est pas de la démagogie politique. C'est des promesses que Dieu nous fait dans sa parole. Et je voudrais nous inviter les uns et les autres à, peut-être si on n'est pas encore dans le royaume de Dieu, si le royaume de Dieu est proche, mais qu'on sent qu'on ne vit pas la plénitude de tout ce que Dieu voudrait qu'on vive, à nous approcher encore davantage, à faire toutes ces choses que le Seigneur met devant nous, afin que nous puissions être de ceux qui goûtent à cette vie que Dieu veut que nous ayons. Est-ce que vous croyez que Dieu veut que votre vie soit bénie ou que c'est juste quelque chose de fictif? Mais non, c'est quelque chose de réel. Et combien malheureusement on voit de personnes qui croient en Dieu mais qui sont frustrées parce qu'ils ne vivent pas la réalité du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la réalité du royaume de Dieu, c'est quand tout est contre moi, quand il y a des épreuves. Moi, je suis dans cette réalité du royaume de Dieu, donc le Seigneur me met une paix, me met une joie, me met un bonheur qui s'explique pas. Les circonstances l'expliquent pas du tout, les circonstances expliquent l'opposé. Mais moi, je vis, par la grâce de Dieu, toutes ces réalités. La paix, la joie, le bonheur, la bonté. Alors qu'on me fait du mal, moi, je suis capable de faire du bien, parce que c'est le Seigneur qui fait ces choses dans mon cœur. Voilà tout ce que Dieu veut faire dans nos vies. Mais voilà, cette phrase, elle est là. Repentez-vous, car le royaume de Dieu, il est proche. Si vous êtes proche du royaume de Dieu, alors il vous manque juste cette étape-là. Et moi, mon conseil, il est simple, hein, ce matin. Repentez-vous. Se repentir, c'est renoncer à sa vie passée. C'est dire, Seigneur, je t'abandonne mon péché. Je confesse tout ce que j'ai fait. Des fois, c'est bien de prendre un papier et d'écrire tout ce que le Seigneur nous met à la mémoire. Des fois, on pense que le temps va guérir les blessures du passé. Ben moi, je peux vous dire, c'est pas vrai. Le temps peut même faire en sorte que les blessures du passé deviennent de plus en plus grandes. Si on ne choisit pas de les confesser devant Dieu, si on ne choisit pas de dire « Seigneur, je te remets ce péché que j'ai vécu ou ces blessures que les autres m'ont fait, je te les remets, je te demande de guérir mon cœur. » Et le Seigneur va le faire dès l'instant où par la foi, on se met devant lui avec humilité et on abandonne nos vies entre ses mains. Le Seigneur a fait la promesse à la croix, il y a cette image qui est là de Jésus qui ouvre les bras pour nous offrir son pardon. Alors ne laissons pas l'ennemi de nos âmes dévorer nos vies, ne laissons pas l'ennemi de nos âmes lacérer la joie et la paix que Dieu voudrait nous donner, ne laissons pas l'ennemi blesser nos cœurs, mais entrons dans le refuge de la présence de Dieu par la porte qu'est Jésus-Christ. Repentons-nous et convertissons-nous. La promesse, elle est qu'il y aura des temps de rafraîchissement. Ça vous intéresse des temps de rafraîchissement? Je dis pas des temps de pluie, hein, parce que ça, on en a assez. Il y en a beaucoup trop en ce moment. Mais des temps de rafraîchissement spirituel où le Saint-Esprit déverse son amour, sa paix, sa joie dans nos cœurs, même si les circonstances sont défavorables. Le Seigneur fait une œuvre, mais c'est le choix, il est là devant nous. Entrons dans le royaume de Dieu. Deuxième choix, il se trouve dans Matthieu chapitre 11 et verset 7. Vous allez voir ce que dit Jésus, encore une fois, concernant le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 11 verset 7, ça concerne Jean-Baptiste. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean-Baptiste. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Le royaume des cieux est forcé et nous avons le choix ce matin de forcer le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que, tiens, si Dieu est pas d'accord, je vais rentrer dans le royaume de Dieu? C'est pas ça, hein? Parce que c'est pas possible. Même l'homme le plus fort sur toute la terre, le plus intelligent, le plus tout ce que vous voulez, s'il veut forcer l'entrée là du royaume de Dieu, il pourra jamais le faire. Parce que justement, il y a des conditions et Dieu, il est intransigeant par rapport à ces conditions-là, de repentance et de conversion. Mais qu'est-ce que ça veut dire forcer le royaume de Dieu? C'est une expression, moi la première fois que j'ai lu cette expression, je me suis posé des questions, j'ai dit mais quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un ici aurait osé dire cette expression si ça n'avait pas été écrit dans la parole de Dieu? Personne. Personne n'aurait voulu employer cette expression en disant « on va forcer le royaume de Dieu ». On va s'emparer de de ces bénédictions que Dieu a pour nous. Pourtant, c'est exactement la pensée qui est là. On a le choix ce matin de vivre une vie chrétienne monotone, frustrante, routinière, empreinte de notre chair et sans puissance. Ça vous intéresse, ce programme? Ou alors, on a le choix de forcer le royaume de Dieu et de prendre, en fait on ne le force pas vraiment, parce qu'on prend simplement ce que Dieu nous a réservé. Les œuvres préparées d'avance, les bénédictions, mais on force les circonstances qui sont opposées pour nous emparer de ce que Dieu veut que l'on vive, par sa grâce, parce que nous avons été bénis dans le ciel de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Mais ces bénédictions, si elles restent que spirituelles, si elles n'ont aucun effet dans notre vie de tous les jours, à quoi ça sert, frères et sœurs? Ça sert à rien. Le Seigneur veut que ces bénédictions spirituelles puissent avoir une influence bienfaisante dans nos vies. Et comment est-ce que cela est possible? Est-ce que Dieu nous invite à être violents envers les gens? Pour m'emparer des bénédictions, je vais donner un coup de poing à mon frère Michel. Hein? Vous êtes d'accord, Michel? On s'arrangera. On cherchera la bénédiction mutuellement. Mais c'est pas ça, heureusement. Qu'est-ce que c'est d'être violent dans le royaume de Dieu? C'est d'être déjà violent envers nous-mêmes. Non pas de nous mettre des coups de poing non plus, Mais c'est d'avoir ce cœur qui est zélé, cet esprit qui est ardent. Soyez fervents d'esprit, nous dit le Seigneur. Et le Seigneur nous invite à avoir ce zèle pour combattre ces réalités qui s'opposent aux bénédictions que Dieu a préparées dans son royaume. D'ailleurs, la repentance dont on parlait tout à l'heure, c'est une forme de violence contre nous-mêmes. En voyant le péché qui est là, qui nous asservit, qui nous rend esclaves, on dit ça suffit, il y en a marre de ce péché, j'en ai assez de vivre sous l'esclavage du péché. Seigneur, viens briser mes liens et moi je veux être violent, m'emparer de ton pardon, m'emparer de ta grâce, m'emparer des projets de bénédiction. Toi, tu changes le mal en bien, Seigneur, alors je veux vivre ces choses dans ma vie. Forçons le royaume de Dieu. Et c'est intéressant de noter dans la parole de Dieu, toutes les fois où Jésus a dit « ta foi t'a sauvé ». Je voudrais faire le parallèle ce matin avec ces personnes à qui Jésus a donné ce témoignage. C'est Jésus qui l'a dit « ta foi t'a sauvé ». Bien sûr, c'est ta foi en moi, ta foi en Jésus t'a sauvé. C'est pas la personne qui croyait tellement en elle-même que elle, non, c'est parce qu'elle croyait, elle avait mis toutes sortes d'intentions et de déterminations par rapport à Jésus qu'elle a été sauvée, qu'elle a été guérie, qu'elle a été bénie. Quatre exemples très rapides, hein. Vous connaissez les histoires. Mais c'est comme si cette phrase, ta foi t'a sauvé, on pouvait la traduire de cette manière. La violence de ta foi t'a permis de voir le royaume de Dieu se manifester dans ta vie. Vous comprenez? Cet élan de foi t'a permis de t'emparer de tout ce que Dieu avait prévu pour toi. Et Dieu veut qu'on vive ça pour nous. La femme pécheresse qui a versé du parfum sur les pieds de Jésus, qui les a essuyés, qui a versé des larmes aussi. Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Elle a dû faire violence à elle-même pour affronter le mépris, la honte. Vous imaginez vous mettre à genoux devant quelqu'un, vous mettre en train de pleurer à ses pieds, même embrasser les pieds de quelqu'un, c'est quand même humiliant. Bon, c'était Jésus en face, on comprend un petit peu, mais les gens qui étaient là, ils n'ont pas applaudi. Au contraire, il y en a qui grinçaient des dents, il y en a qui grommelaient, il y en a qui ont sans même aller voir Jésus, mais attends, Seigneur, tu ne laisses pas faire une chose comme ça. Tu sais pas de quel genre est cette femme, Seigneur. Le Seigneur le sait très bien. Mais cette femme, elle a usé de violence contre le mépris, contre la moquerie, et elle a préféré apporter au Seigneur une adoration véritable de tout son cœur que d'écouter les voix contraires qui étaient là. Ça, c'est un genre de violence que Dieu, il aime. Cette violence intérieure qui fait fi de la moquerie, qui fait fi des persécutions, qui fait fi de tout ce qui peut être opposé, mais qui adore le Seigneur malgré tout. La femme à la perte de sang. Elle a bravé la foule malgré sa situation, malgré sa faiblesse, parce que la perte de sang depuis 12 ans, laissez-moi vous dire qu'elle devait pas être en forme. Mais elle a choisi de user de violence et un élan particulier en se disant « Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » Combien de fois j'ai vu des gens spirituellement qui ont pris cette phrase à cœur et qui ont dit « Aujourd'hui, je veux toucher le bord du vêtement de mon Seigneur. » Aujourd'hui, par la foi, je veux avoir un attouchement du Seigneur béni. Je veux avoir quelque chose qui va me faire du bien. Et ils ont été bénis le jour même. Parce qu'il y avait cette violence, cette bonne violence dans leur cœur. Elle a eu cet élan et nous devons avoir cet élan pour le Seigneur. Bartimée, alors que les gens lui disaient « Tais-toi, que n'importune pas, le maître, il a d'autres choses à faire. » Vous savez ce qu'il a fait, Bartimée? Il a redoublé d'efforts, il a crié encore plus fort. Il a été violent dans son cri, mais quelquefois on a besoin, pas des décibels, mais dans notre cœur, de dire « Seigneur, je crie à toi, je crois que même si les gens me disent que ça sert à rien, toi tu peux faire quelque chose. » Est-ce que ça valait la peine pour lui? Un petit peu quand même, hein. Et quand il a été auprès du Seigneur, il a été guéri. C'est parce que son cri a retenti jusqu'aux oreilles de Jésus que le cortège s'est arrêté, que le Seigneur a béni cet homme. Le dixième lépreux. Les 10 lépreux sont venus voir Jésus, les 10 lépreux sont allés se montrer au sacrificateur par la foi, mais il n'y en a qu'un qui est revenu pour remercier. En plus, c'était l'étranger. Cet homme, il a été violent face à l'ingratitude. On se dit, oh non, l'ingratitude, c'est pas tellement grave. Mais l'ingratitude, on voit que Jésus, c'est quelque chose qu'il a retenu. Il a dit, mais où sont tous les autres? Il n'y a que cet étranger qui est là pour rendre gloire à Dieu. Et cet homme, il avait choisi. J'ai été béni par le Seigneur, je veux être violent dans le fait de ne pas dire merci, je veux au contraire être quelqu'un qui va faire monter ma reconnaissance, qui va dire à mon Seigneur combien il a été bon pour moi. Et je crois que le Seigneur veut que nous vivions un combat contre l'ingratitude, contre ces moments où Dieu nous fait du bien et on oublie qu'il nous a fait du bien. Dieu répond à la prière, on oublie qu'il a répondu à la prière, on ne lui dit même pas merci. Mais que le Seigneur nous aide à avoir ce regard clair sur les choses qui se passent. Combien de fois Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Combien de fois sur la route le Seigneur nous garde alors qu'on s'en rend même pas compte. Combien de fois le Seigneur a veillé sur nos enfants. Combien de fois le Seigneur a pourvu à nos besoins alors que tout était difficile au niveau du budget. Combien de fois le Seigneur a fait quelque chose pour nous. Est-ce que nous prenons le temps de dire merci? Ça, c'est une forme de bonne violence envers nous-mêmes. Parce que vous savez, on est dans un monde aujourd'hui où on ne dit même plus merci. Il y a toutes sortes de choses qui paraissent normales à la morale même, sans parler de quelque chose de spirituel, mais rien que la morale et la politesse, ça s'est remis en question aujourd'hui, ces choses-là. Parce qu'on est dans un monde qui se recentre sur lui-même, qui est dans cet égoïsme. Et nous voulons montrer que le royaume de Dieu est une réalité et que nos vies sont empreintes de cette réalité du royaume de Dieu. Et vivre en forçant le royaume de Dieu, en vivant la puissance de Dieu, en démontrant autour de nous notre foi avec zèle. Ça ne veut pas dire prendre notre Bible et aller taper pour que ça rentre dans la tête de nos voisins, c'est pas du tout ça. Mais que par nos vies, nous puissions manifester la bonne odeur de Jésus-Christ. Regardez ce passage dans Luc 17, ce troisième choix devant lequel on est confronté par rapport au royaume de Dieu. Luc chapitre 17, verset 20. Il s'agit des pharisiens. Les pharisiens demandèrent à Jésus, « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. » Le royaume de Dieu était déjà au milieu d'eux. Alors, de quelle manière ? De quelle manière est-ce que le royaume de Dieu était au milieu d'eux? Par la présence de Jésus. Jésus était celui qui était en train d'annoncer le royaume de Dieu, et le fait d'obéir à ce que Jésus annonçait préparait les cœurs pour pouvoir entrer dans ce royaume. Mais les pharisiens, eux, ils attendaient un royaume physique. Ils attendaient quelque chose d'une puissance, un roi puissant qui vienne les libérer de l'emprise de l'envahisseur romain qui était là et qui les asservissait depuis des années. Avant, ça avait été des Égyptiens, il y a eu toutes sortes de personnes qui sont passées par là pour les asservir, et maintenant ils étaient dans une attente d'un royaume physique. Alors un jour, le Seigneur Jésus va revenir de cette manière-là, physiquement, pour remporter la victoire sur toutes les armées de la terre qui s'opposeront à Israël. Mais ça sera un jour prochain. Mais en attendant, le royaume de Dieu, il vient de manière pas à frapper le regard, de manière discrète. Et le choix devant lequel nous sommes confrontés, c'est de discerner le royaume de Dieu. C'est de connaître en profondeur les choses du royaume de Dieu. La prochaine fois, on aura l'occasion de voir les lois du royaume de Dieu. Il y a toutes sortes de principes qui sont là, qui sont clés, qui nous permettent de justement vivre la bénédiction qui est rattachée au royaume de Dieu. Et combien on pourrait passer des dimanches et des dimanches, on va en faire que quelques-uns. Mais c'est important d'avoir ce désir de discerner ce que Dieu veut que nous vivions aujourd'hui, de discerner de quelle manière Dieu veut régner dans notre cœur. Dans Matthieu 13, 10, les disciples s'approchent de Jésus et lui disent « Pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. » Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Amen. C'est vrai que quand on regarde certaines paraboles, parfois, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, Mais parfois, on n'a pas l'impression que la parabole, elle clarifie les choses. Parfois, on a l'impression que ça complique les choses. Parfois, les enseignements de Jésus qu'il nous donne et les paraboles qui sont collées avec, au premier abord, c'est difficile à comprendre. Peut-être que vous comprenez tout. Merci Seigneur, vous viendrez m'expliquer. Mais en fait, j'ai réalisé que si le Seigneur avait fait en sorte que c'était le cas, il le dit d'ailleurs, hein, il parlait au peuple en parabole et c'était pas forcément clair toute fois. Mais s'il fait cela, le Seigneur, c'est pour qu'on prenne le temps de réfléchir à ces choses, pour pas essayer de réfléchir trop vite et d'avoir la mauvaise compréhension du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, il vient pas de manière à frapper le regard. C'est quelque chose qui se discerne, c'est quelque chose qui se médite, c'est quelque chose qui se digère quand on lit la parole de Dieu dans notre chambre, quand on prend le temps le matin et qu'on laisse le Seigneur pénétrer notre cœur par cette parole. Ça demande un petit peu de temps pour que ces choses puissent fructifier dans notre vie. Mais est-ce que nous prenons le temps justement de réfléchir à cela? On est dans une génération où on veut que tout aille vite. Même quand le micro-ondes, on le met une minute, il faut qu'à 55, on ouvre la porte. Parce que ça va pas assez vite. Faut toujours aller plus vite que la machine. Et quand celui qui est devant au feu rouge, il réagit pas dès que le feu passe au vert, hop, le klaxon, il est là pour lui dire qu'il le rappeler à l'ordre. Il faut que ça aille vite. Mais le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Je sais qu'il y en a qui se reconnaissent parce que je vois du mouvement. Mais vous inquiétez pas, je suis passé par là aussi, hein. En tout cas, par contre, il faut bien comprendre que dans les choses spirituelles, il faut prendre le temps, savoir prendre le temps, prendre le temps de se poser. Parce que discerner le royaume de Dieu, ça va pas se faire en claquant des doigts. Ça prend du temps. C'est comme si quelqu'un voulait bronzer, mais qu'il sortait dehors pendant une seconde et qu'il ressortait aussitôt. Il faut s'exposer de manière longue et sur toutes les faces, il faut que la biscotte elle soit beurrée des deux côtés pour pouvoir bronzer. Vous comprenez? Alors, je prends une image, elle n'est pas terrible, mais en tout cas, ça nous parle d'exposition à la présence de Dieu. Il faut rester dans la présence de Dieu. Il faut rester. Il faut mettre son cœur à découvert. Hein. De toute façon, on le sait très bien que nulle créature n'est à découvert devant le Dieu à qui nous devons rendre compte. Mais parfois, on ne présente pas notre cœur devant Dieu, on le cache, on essaye de le cacher. Et lui, il le voit très bien. Mais on ne veut pas qu'il voie certains endroits de nos cœurs. Il y a des petits tiroirs à l'intérieur de nos cœurs qu'on ne veut pas ouvrir quand on est dans sa présence. Mais si on veut discerner les choses du royaume de Dieu, si on veut qu'il y a des choses qui changent dans nos vies, si on veut qu'il y a des décisions qui amènent une répercussion bénie, s'il y a quelque chose dans notre vie avec lequel on combat depuis des années et qu'on s'aperçoit que les choses ne changent pas, mais ça serait temps peut-être de s'exposer à la présence de Dieu et de dire Seigneur, montre-moi que ta lumière brille en moi. Pourquoi est-ce que Jésus dit aux disciples, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça aux disciples? Est-ce qu'il fait des préférences, le Seigneur? Jésus, il préférait ses disciples que les autres, c'est ça? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas le Dieu qu'on a, hein? Le Seigneur, il propose à tous de révéler ses mystères, mais il y en a qui étaient ses disciples, et le disciple, ben, par définition, c'était quelqu'un qui restait en présence du Maître. Et quand il y avait quelque chose qu'il comprenait pas, leur façon de réagir, c'était d'aller auprès du Seigneur et de dire, Seigneur, explique-nous. Voilà pourquoi il a été donné à eux de comprendre les mystères du royaume de Dieu, parce qu'ils allaient voir Jésus, lui demander l'explication. C'est aussi simple que ça. Est-ce que nous prenons le temps de venir au pied du Seigneur et de dire, Seigneur, parle, car ton serviteur écoute, montre-moi, il y a des choses que je comprends pas, tel ou tel verset dans ta parole. Combien de fois ça m'arrivait quand j'étais tout jeune dans la foi et que je me posais des questions existentielles sur certains versets qui me paraissaient totalement obscurs? Que le dimanche matin, le pasteur, il prenne ce verset et qu'il explique totalement sans que je lui ai dit quoi que ce soit. Parce que je l'avais dit à mon maître, Jésus. Et lui, il avait, par le Saint-Esprit, inspiré le pasteur. Mais combien de fois je pourrais compter, non, je peux même plus compter sur le doigt de la main, ça arrivait tellement et tellement souvent. Mais le Seigneur, il est à notre écoute pour nous expliquer ces choses-là. On donnera à celui qui l'a et il sera dans l'abondance. Cette phrase, elle paraît un peu injuste. On donnera à celui qui l'a, il sera dans l'abondance, et l'autre, on lui ôtera même ce qu'il a. Mais qu'est-ce que c'est que les disciples ils ont que les autres n'ont pas? Vous avez réfléchi à ça? C'est quoi qu'ils ont et qui va permettre qu'on leur donnera en abondance? Je vais vous le dire, c'est aussi simple que de comprendre que c'est la soif d'être enseigné par Jésus. Quand on a seulement la soif d'être enseigné par le Seigneur, alors on va recevoir en abondance. Parce que notre Dieu, notre Jésus, c'est une source d'eau vive. Il veut combler, il veut rafraîchir nos âmes avec abondance. De la croix, la grâce coule. Et si on a soif, on peut venir s'abreuver tous les jours. On peut venir tous les jours en réfléchissant à l'œuvre de Jésus à la croix et retirer quelque chose de nouveau encore aujourd'hui. Si vous prenez de l'eau qui a stagné dans une flaque avec toutes sortes de bactéries, les animaux qui sont venus lécher tout ça, qui voudra boire? Personne. Mais si c'est un fleuve qui coule et qui coule avec abondance, pas les fleuves de la Seine qui sont tout marrons, c'est pas cela dont je parle, mais l'eau limpide et claire qui coule de la présence de Dieu, du trône, de la grâce de Dieu, alors là on peut venir boire et être rafraîchi, être renouvelé. Est-ce que nous voulons être de ces disciples qui se tiennent aux pieds du Seigneur, qui font le choix de discerner le royaume de Dieu? Seigneur, fais-moi connaître les mystères de ton royaume. Oui, il y a des choses difficiles. Oui, ça demande du temps. Oui, c'est pas la première année qu'on comprend toute la Bible, bien sûr. Mais personne ne comprendra jamais toute la Bible en entier. Je me souviens de ce pasteur qui avait 85 ans, et maintenant il doit en avoir 87 à peu près, et qui disait pourtant, alors qu'il nous faisait des enseignements incroyables, structurés, il nous sortait toutes sortes de vérités magnifiques de la parole, il disait, moi j'apprends tous les jours. 85 ans, quelqu'un qui est plongé continuellement, versé dans la parole, il est capable de dire « j'apprends tous les jours ». C'est quelque chose qui doit nous interpeller. Trois choix qui sont là devant nous, et peut-être le dernier, qui va être très rapide. Pour l'introduire, je voudrais vous poser cette question. Qu'est-ce qui doit être prêché avant que la fin vienne ? Qu'est-ce que Jésus a dit qui doit être prêché avant que la fin vienne? Vous savez, à un moment donné, il dit il y aura des bruits de guerre, il y aura des tremblements, des inondations. La bonne nouvelle, presque. La repentance, le salut. On était plus près avec Marink. La bonne nouvelle. Mais il manque quelque chose. La bonne nouvelle du royaume. Et c'est important de réaliser les mots que Jésus il emploie. Il dit pas juste la bonne nouvelle. Jésus dit, je vous lis la phrase pour être que vous soyez convaincus, dans Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La bonne nouvelle du royaume, c'est pas juste de dire une bonne nouvelle, Jésus t'aime. C'est bien ça. Mais on loupe la moitié de l'explication. La bonne nouvelle, c'est que Jésus t'aime, il a donné sa vie à la croix pour toi, pour qu'il soit le roi dans ton cœur. Et qui règne sur ta vie, qui est un royaume de Dieu qui s'installe pour toi. Et bien sûr, plus tard, il y aura cette éternité céleste avec lui, mais la bonne nouvelle du royaume. D'ailleurs, église évangélique, évangélique, ça veut dire quoi? Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc c'est vraiment le cœur de notre mission à chacun d'entre nous, c'est d'annoncer par nos vies la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et quelqu'un a dit cette phrase qui pour moi m'interpelle beaucoup, prêche, prêche, prêche la bonne nouvelle. Mais s'il y a besoin, emploie des mots. C'est-à-dire, fais-le par ta vie. Le plus important, c'est par nos vies que nous prêchons la bonne nouvelle du royaume. Le Seigneur nous met ce matin face à ces choix-là. Qu'est-ce que nous allons faire? Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Je mets devant toi le bien et le mal. Mais choisis le bien, choisis la vie afin que tu vives. Seigneur, nous met face à ces choix du royaume. Ne nous contentons pas d'être près du royaume, mais repentons-nous parce que le royaume de Dieu est proche. Soyons violents pour forcer, nous emparer des grâces du royaume. Soyons assoiffés pour discerner les mystères du royaume. Soyons zélés pour annoncer le royaume de Dieu par nos vies. Mon frère, ma sœur, toi qui es là ce matin, mon ami, toi qui n'es pas encore engagé, là où tu es à ta place, tu peux dire, Seigneur, je veux entrer dans ton royaume aujourd'hui. Je ne veux pas me contenter d'être à la porte, c'est trop dangereux, ça fait trop mal. Je veux être dans le saint refuge. de la présence de mon Dieu.